Ce matin, je vais vous parler de la grâce sanctifiante. Le but d'une retraite, c'est à la fois de dompter le vieil homme et de développer l'homme nouveau. Dans toute vie spirituelle, il y a deux aspects. Un aspect négatif de mortification, de renoncement, de sacrifice. Et puis, il y a un aspect positif. Un aspect positif de développement de la vie surnaturelle, d'épanouissement de l'homme nouveau, d'intimité avec Dieu. Alors la difficulté que nous rencontrons, c'est que le vieil homme, on pourrait dire, on le voit, on le sent, on le touche du doigt dans la vie de tous les jours. Dès qu'on est lucide sur nous-mêmes, on voit bien les séquelles que le péché originel a laissées en nous. On découvre facilement également ce que nos péchés d'ailleurs passés aussi, les traces que les péchés passés ont pu que nos péchés passés ont pu laisser en nous. Donc on découvre bien en nous un fond d'égoïsme, un orgueil, une recherche exagérée des plaisirs, une certaine attirance pour le mal, une difficulté à faire toujours le bien. Donc cet aspect-là, je dirais, on le ressent d'une façon palpable, c'est sensible. Donc le vieil homme est bien palpable. Mais l'homme nouveau, lui, il est moins perceptible psychologiquement. Donc un regard psychologique est insuffisant pour percevoir la présence en nous de l'homme nouveau. Pour être capable de percevoir dans notre âme l'homme nouveau, il faut un regard de foi. Donc vous voyez, si je crois que Dieu est présent en moi par la grâce, ce n'est pas parce que je le sens, ce n'est pas parce que je le vois, mais c'est parce qu'il me l'a dit, et qu'il ne peut pas se tromper ni me tromper. C'est ce qu'on dit dans l'acte de foi. Si on croit dans les vérités que Dieu nous a révélées, ce n'est pas que ces vérités, on les sente ou on les voit, mais c'est tout simplement parce que Dieu lui-même sait mieux que nous qui nous sommes et quel chemin on doit prendre pour aller à lui. Donc si Dieu me dit que par le baptême il est venu en moi par sa grâce, eh bien c'est qu'il est venu en moi. Alors pour développer ce regard de foi sur ce qui se passe au plus profond de notre âme, il est bon toujours d'ouvrir la Sainte Écriture. Vous avez eu une instruction hier soir sur la Sainte Écriture. Donc essayons d'ouvrir la Bible et de regarder les différents passages où Dieu a cherché à nous expliquer ce qui se produit en nous. Donc on va voir tout d'abord ce que notre Seigneur a pu dire sur cette vie spirituelle, sur cette vie surnaturelle, sur la vie de la grâce. Et puis ensuite, on verra ce qu'ont dit les apôtres. Les apôtres ont été à l'écoute de notre Seigneur, et donc notre Seigneur n'a pas forcément... tout ce que notre Seigneur a dit n'a pas été forcément enregistré d'une façon directe par les apôtres. Il y a des choses que les apôtres ont rapportées après coup, si vous voulez. Dans l'Évangile, il y a des passages où c'est notre Seigneur qui parle, et puis il y a d'autres passages où ce sont les apôtres qui, écoutant notre Seigneur, ont rapporté ses paroles. Donc il y a deux types d'enseignement. Un qui est plus direct, où c'est notre Seigneur qui est Dieu lui-même, c'est Dieu qui parle. Et puis d'autres passages où ce sont les apôtres qui parlent, les apôtres qui enseignent leurs fidèles à partir de ce qu'ils ont reçu de notre Seigneur. Donc tout d'abord, soyons bien convaincus que ce qu'on pourrait appeler l'état de nature pure n'a jamais existé. Qu'est-ce que serait que cet état de nature pure? L'état de nature pure, ce serait l'état d'un homme, si vous voulez, qui serait sorti de la main de Dieu, sans l'élévation à l'ordre surnaturel et sans le péché. C'est ce qu'on pourrait appeler un état de nature pure. C'est-à-dire un état d'un homme qui serait bien fait, en quelque sorte, et qui ne serait pas pour autant surélevé donc à l'ordre surnaturel, et qui ne serait pas non plus affaibli par le péché. Cet état-là n'a jamais existé. Le premier état de l'homme, ça a été un état surnaturel. Dès le moment où Dieu a créé l'homme, il l'a créé certes avec une nature pure, mais enrichie de dons surnaturels. Donc le premier état de l'homme, c'est un état qui est surnaturel. L'homme est endobli de dons surnaturels, du don de la grâce, des dons préternaturels, les dons préternaturels de dons de science infuse, dons d'immortalité, don d'impassibilité, il ne devait pas connaître la souffrance, et don d'intégrité, donc une soumission parfaite des passions à la raison et de la raison à Dieu. Ça, c'est l'état premier de l'homme, tel qu'il est sorti de la main de Dieu. Ensuite, il y a eu l'état de chute, l'homme a péché, et en péchant, il a perdu la grâce. Et non seulement il a perdu la grâce, mais il a perdu ensuite les dons préternaturels dont je venais de parler. Et non seulement il a perdu ses dons, mais il a été affaibli dans toutes ses facultés. C'est-à-dire que notre intelligence qui est faite pour le vrai, elle est affaiblie aujourd'hui. Donc on a plus de mal à atteindre la vérité que si l'homme n'avait pas péché. Donc l'intelligence, elle est affectée par la blessure d'ignorance, donc on a du mal à connaître le vrai. Notre volonté, qui normalement est faite pour le bien, se laisse attirer vers le mal, donc il y a un désordre encore dans notre volonté. Et notre sensibilité, qui devrait être toujours soumise à notre intelligence et à notre volonté libre, eh bien la sensibilité a tendance à prendre une trop grande place dans notre vie. Et ça va se manifester notamment par l'attrait déréglé pour les plaisirs des sens, c'est la blessure de concupiscence. Et puis il va y avoir encore le dernier dérèglement, c'est la blessure de faiblesse. Dans toute vie, un homme rencontre des obstacles, et les obstacles sont faits pour être franchis. Mais l'homme, au lieu d'avoir la vertu de force qui lui permettrait de franchir ces obstacles sans trop de difficultés, est affecté par la blessure de faiblesse, si bien qu'il a tendance à se décourager quand il rencontre un obstacle. Donc vous voyez, il faut connaître, être bien convaincu de ce que je viens de vous dire là. C'est que d'abord, le bon Dieu a créé l'homme dans un état supérieur à l'état de nature pure, et que par le péché, il est tombé à un état inférieur à cet état de nature pure. Et donc tout homme qui naît aujourd'hui, au moment de sa naissance, eh bien il est affecté par cette blessure. Donc il n'est pas dans un état purement normal, ou naturel. Il est dans un état inférieur à un état d'homme de nature intègre. Et même après le péché originel, même après le baptême, le baptême va effacer la tâche originelle, le baptême va redonner la grâce sanctifiante, mais l'homme gardera toute sa vie les séquelles du péché originel, donc il restera avec une nature blessée. Une nature qui est blessée tout en étant enrichie en même temps d'un trésor merveilleux. Et donc, vous voyez, depuis le baptême, il y a en nous une cohabitation de deux hommes. Il y a en nous, d'un certain côté, un penchant vers le mal, et depuis le baptême, grâce à Dieu, il y a aussi une attirance vers le bien. Et quand on se connaît soi-même, on doit reconnaître que cette double tendance, eh bien, on peut la repérer à certains moments. On voit bien qu'à certains moments, on se sent attiré vers Dieu. On a un désir d'entendre parler de Dieu, on a un désir de se sanctifier, un désir de faire le bien. Et à d'autres moments, eh bien, tout d'un coup, eh bien, c'est encore le vieil homme qui reprend le dessus. On se laisse entraîner vers le mal. Donc il s'agit ici, maintenant pour nous, hier on a parlé du péché originel, on vous a dû vous parler du péché originel et de nos péchés personnels. Il s'agit maintenant, aujourd'hui, de regarder la partie positive de l'âme, de voir quel trésor le bon Dieu nous a communiqué. Mais ce trésor, soyons convaincus qu'on l'a reçu, comme dit saint Paul, dans un vase d'argile, c'est-à-dire dans un être qui reste très, très mouvant et très changeant. Donc, il faut reconnaître la beauté de ce trésor et en même temps reconnaître que ce trésor, tant qu'il est ici-bas, il est dans un récipient qui est un petit peu fragile. Et donc, il faut faire très attention à atténuer les faiblesses du vieil homme pour que l'homme nouveau puisse s'épanouir normalement. Et j'ajouterai ici aussi sur le fait que l'état de nature pure n'a jamais existé. Il y a des tas de conséquences tout à fait pratiques dans le domaine de l'éducation des enfants. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez, depuis Rousseau, on dit que Rousseau qui prétendait que l'homme était bon par nature, eh bien, il y a une mentalité qui fait que l'homme moderne croit ou laisse croire que l'homme serait bon par nature. Et donc si l'homme était bon par nature, c'est sûr qu'à ce moment-là, mais on pourrait très bien laisser libre cours à nos instincts, puisque nos instincts seraient bons. Il faut savoir que l'homme n'est pas bon par nature. Et par conséquent, eh bien, la partie animale de notre être a tendance à vouloir prendre beaucoup trop le dessus. C'est sûr que qui veut faire l'ange fait la bête, c'est vrai. Donc il ne faut pas oublier qu'on a un corps, on en parlait hier d'ailleurs, la religion catholique est la religion de l'incarnation, donc il ne faut pas oublier qu'on a un corps, et ce corps, il faut aussi le respecter. Mais d'un autre côté, ce corps a tendance aujourd'hui à vouloir prendre trop de place, et par conséquent, il faut essayer de le remettre à sa place. Et toute l'ascèse chrétienne, le renoncement chrétien, l'esprit sacrifice, le sacrifice catholique, trouve là sa place. Dans la mesure où j'estime que l'homme n'est pas bon par nature, eh bien, je dois essayer de mortifier ce qu'il y a de déréglé dans mon être. Maintenant, dans la mesure où je sais que le bon Dieu m'a enrichi d'un trésor merveilleux, depuis le baptême, je dois aussi, et c'est un autre aspect de la vie spirituelle, je dois aussi considérer cet aspect-là positif, qui est très réconfortant pour l'âme, et qui est, qui est très consolant, et qui est aussi indispensable pour avoir une vie chrétienne authentique. Et vous pourrez remarquer d'ailleurs que dans la liturgie, vous voyez, l'Église est une mère, Monseigneur Lefebvre le rappelait hier aussi, qui nous connaît bien, et donc, à certains moments dans l'année liturgique, l'Église va nous inviter tantôt à regarder davantage l'aspect de péché, l'aspect de négatif, et de temps en temps, à d'autres moments dans la vie catholique, l'Église va nous inviter à regarder l'aspect positif. Donc si vous voulez avoir une vie chrétienne équilibrée, laissez-vous porter par la liturgie. L'Église est une mère, et donc elle sait mieux que nous ce qui nous convient. Par exemple, l'Église va nous demander, vous voyez, pendant 40 jours, pendant le carême, de faire pénitence, en nous rappelant que nous sommes pécheurs, et en nous rappelant toutes les souffrances que notre Seigneur a endurées pour nous, pour réparer nos péchés. Mais ensuite, pendant 50 jours, l'Église va nous demander de nous réjouir avec notre Seigneur ressuscité, et puis après aussi à attendre les lumières du Saint-Esprit. Donc ça, c'est catholique, vous voyez. 40 jours de pénitence, 50 jours de joie après. Donc si on veut avoir une vie chrétienne équilibrée, il faut bien regarder ces aspects, ce double aspect de la vie spirituelle. Donc ce serait une erreur d'oublier la partie négative, mais ce serait aussi une toute autre erreur, aussi grave et peut-être plus grave, d'oublier la partie positive. Alors aujourd'hui, on pourrait dire que l'erreur du modernisme, c'est justement de ne voir plus que le côté positif. Christ est ressuscité, alléluia, soyons dans la joie, bon, c'est très bien. Mais l'aspect de croix, de mortification, de souffrance n'existe plus du tout. On a gommé cela de la religion moderne. Et donc, du coup, ça fait une religion qui est tronquée. Mais de notre côté, essayons aussi de ne pas oublier, en voyant le côté négatif qui est présent, n'oublions pas de voir le côté positif. Donc, regardons comment notre Seigneur a parlé de la grâce à ses contemporains. Tout d'abord, il y a le passage du discours à Nicodème. Nicodème, qui est ce notable juif, qui vient voir notre Seigneur de nuit, et qui il va le voir la nuit parce qu'il n'ose pas le voir en direct le jour pour éviter de se faire repérer par les autres juifs, et il lui pose quelques questions. Et notamment, il veut savoir un petit peu ce que notre Seigneur est venu faire sur la terre et quels sont les moyens que nous devons prendre pour aller au ciel. Et là, notre Seigneur lui dit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de nouveau, ne peut voir le règne de Dieu. » Donc, vous voyez, quand notre Seigneur utilise cette formule, « Amen, amen, je te le dis », c'est une formule où il met toute son autorité. Le « Amen, amen, je te le dis », ça veut dire, eh bien, je suis le Dieu fait homme, eh bien, la parole que je vais te dire, peut-être que tu ne la comprendras pas bien, mais fais-moi confiance, je suis Dieu. Donc, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de nouveau, ne peut voir le règne de Dieu. » Donc ici, notre Seigneur parle d'une nouvelle naissance. Et donc, il y a deux naissances. Et s'il y a deux naissances, c'est parce qu'il y a deux vies. Il y a une vie naturelle, donc naissance à la vie naturelle, et il existe une deuxième vie, notre Seigneur en parle ici. Personne, à moins de naître de nouveau, ne peut voir le règne de Dieu. Donc il y a une deuxième vie, qui est la vie surnaturelle. Et le fruit de cette vie surnaturelle, c'est la vision de Dieu. Personne, à moins de naître de nouveau, ne peut voir le règne de Dieu. Ça signifie que celui qui naît de nouveau peut voir le règne de Dieu. Et voir le règne de Dieu, c'est voir Dieu lui-même. Alors Nicodème, qui lui voit les choses d'une façon beaucoup plus matérielle, d'une façon un peu trop terre-à-terre, donc il pose la question à notre Seigneur, quand notre Seigneur lui dit cela, il parle d'une nouvelle naissance, alors lui il dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer une seconde fois dans le sein de sa mère et renaître? C'est une évidence que ce n'est pas possible, mais donc il pose la question. Alors là, c'est intéressant, notre Seigneur, vous voyez, à nouveau, il va, quand il exprime une vérité qui nous dépasse, il veut notre adhésion. Donc là, il ne va pas expliquer, en fait, c'est l'eau du baptême, c'est l'eau qui va couler sur le front de l'enfant. Et puis, eh bien la grâce, qui est une qualité qui va transformer l'âme en profondeur, non, il ne va pas développer, vous voyez, cet aspect théologique. Il va de nouveau demander la confiance et exiger la soumission de notre intelligence à la vérité qu'il exprime. Notre Seigneur renchérit, amen, amen, je te le dis, donc de nouveau argument d'autorité, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ici il précise que cette nouvelle naissance est une nouvelle naissance qui se fera dans l'eau et dans l'esprit. L'eau et l'eau du baptême, donc c'est le moyen, et dans l'Esprit Saint, parce que le fruit de cette nouvelle naissance, ce sera la présence du Saint-Esprit dans l'âme du petit enfant. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc la première naissance, une naissance naturelle, dans la naissance naturelle, eh bien c'est les parents donnent aux enfants leur corps, et donc le corps de l'enfant est la chair de la chair, des parents. Donc ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il va y avoir une nouvelle vie qui va être une vie spirituelle qui va apparaître comme fruit de cette nouvelle naissance. Saint Jean chapitre 3, versets 3 à 6. Ensuite, il y a un autre moment, c'est dans le dialogue avec la Samaritaine, où notre Seigneur, d'une façon indirect, va encore reparler de cette vie spirituelle qu'il veut nous communiquer par le baptême, de cette vie surnaturelle. Notre Seigneur dit à la Samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Saint Jean, chapitre 4, verset 10. Donc, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc, notre Seigneur veut nous donner de l'eau vive. Alors, quelle est cette eau vive? Alors, ici, il est bon de voir les commentateurs. Eh bien, saint Thomas d'Aquin explique que cette eau vive que veut nous donner notre Seigneur n'est autre que le Saint-Esprit lui-même. Et si le Saint-Esprit peut être identifié à l'eau, c'est parce que le premier effet du Saint-Esprit dans une âme, c'est de purifier l'âme. L'effet de l'eau naturelle, c'est de purifier l'âme. Ce que l'eau naturelle produit sur le corps, l'eau du baptême va le produire sur l'âme. Donc ce n'est pas du tout un hasard si le baptême a lieu avec de l'eau. Si on baptise avec de l'eau, c'est pour montrer l'effet produit par l'eau du baptême sur l'âme. Que l'eau naturelle produit sur le corps, l'eau du baptême le produit sur l'âme. Donc le Saint-Esprit que nous recevons au baptême purifie notre âme en profondeur. Ensuite, un autre effet de l'eau froide au moins, c'est de rafraîchir. Et saint Thomas dit que l'eau du baptême nous rafraîchit des ardeurs de la tentation. Et puis ensuite, l'eau que notre Seigneur nous donne a pour but de nous enlever la soif de ce qui est terrestre et temporel. Ça veut dire que plus on va développer en nous la vie spirituelle, voyez, moins on aura d'attrait pour les plaisirs purement naturels, purement sensibles. Donc notre Seigneur dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, montrant par là que la Samaritaine ignorait le don de Dieu. Et le don de Dieu, bien, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même veut se donner à nous. C'est ce que notre Seigneur laisse entendre à la Samaritaine. Celui qui boira, poursuit notre Seigneur, l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Et oui, le Saint-Esprit qu'on reçoit en nous devient source d'eau jaillissante pour la vie éternelle, puisque le Saint-Esprit qui vient en nous, c'est Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, eh bien, c'est le ciel, c'est le ciel anticipé. Saint Jean chapitre 4, versets 13 à 14. Alors maintenant, il est intéressant de voir de quelle manière les apôtres ont enseigné les héritiers de la foi à leurs fidèles, à partir de tout ce qu'ils ont entendu de la bouche de notre Seigneur. À la fin de l'évangile de Saint Jean, il est dit que Saint Jean dit que il a rapporté simplement quelques passages et quelques faits de la vie de notre Seigneur. Et que s'il avait fallu tout rapporter, le monde entier n'aurait pas suffi pour contenir tout ce que notre Seigneur avait pu dire et faire. Donc, Saint Jean n'a pas tout dit, ni tout écrit. Et les apôtres, par contre, eux-mêmes, ont enregistré ce que notre Seigneur a pu leur dire, et ils ont essayé de transmettre cet enseignement à leurs fidèles. Et donc, dans l'enseignement qu'ils donnent à leurs fidèles, on voit bien que notre Seigneur avait certainement donné des précisions sur cette vie spirituelle et sur cette vie surnaturelle. Donc, je vous cite ici quelques passages, donc des Actes des apôtres et des épîtres des apôtres, pour vous rendre compte de cet enseignement. Saint Jacques, tout d'abord. Le Père des Lumières. Le Père des Lumières, c'est Dieu le Père. Le Père des Lumières, de sa propre volonté, nous a enfantés par une parole de vérité. Le Père de Lumière nous a enfantés par une parole de vérité. La parole de vérité, c'est le Verbe, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu le Père, par son Verbe, nous a enfantés. Il nous a enfantés afin que nous soyons les prémices de ses créatures. Donc Saint Jacques parle d'enfantement. Le fruit de l'enfantement, eh bien, c'est le fait qu'on est devenu enfant de Dieu. Donc il y a bien une deuxième vie. À la vie naturelle s'ajoute la vie surnaturelle. Saint Jacques en parle à ses fidèles. C'est dans l'épître de Saint Jacques, chapitre 1er, verset 18. Donc chaque fidèle est engendré par Dieu. Saint Pierre de son côté, que dit Saint Pierre à ses fidèles ? Vos âmes ont été sanctifiées, vous avez été réengendrés d'une semence non pas corruptible, mais incorruptible, par une parole divine, vivante et permanente. Vos âmes ont été sanctifiées. Vous voyez ce que Saint Pierre disait à ses fidèles ? Eh bien, le bon Dieu nous le redit aujourd'hui. Nos âmes ont été sanctifiées. Nous avons été réengendrés. Réengendrés d'une semence non pas corruptible, mais incorruptible, par une parole divine, vivante et permanente. Nous avons été réengendrés, donc réengendrés veut dire donc nouvelle naissance à nouveau. On précise que cette nouvelle vie est le fruit d'une semence, ou le fruit de cette nouvelle vie plutôt est une semence. Une semence qui n'est pas corruptible mais incorruptible. Alors on verra ensuite quelle est cette semence, mais notons que le fruit de cette nouvelle vie, c'est une semence qui est présente en nous. Il y a une semence en nous. Cette semence n'est pas corruptible mais incorruptible. Ça veut dire que, selon le plan de Dieu, cette semence qui est en nous est appelée à demeurer en nous pour toujours. Première épître de Saint Pierre, chapitre 1er, versets 22 et 23. Saint Jean maintenant. Saint Jean, comment parle-t-il de cette vie spirituelle à ses fidèles ? Quiconque est engendré de Dieu, la semence de Dieu demeure en lui. Donc, Saint Pierre parlait de semence incorruptible. Saint Jean dit, celui qui est engendré de Dieu, la semence de Dieu demeure en lui. Donc il parle aussi d'une semence, une semence qui est présente en nous. Première épître de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 et 9. Donc vous voyez, l'engendrement à la vie surnaturelle, c'est une conclusion, l'engendrement à la vie surnaturelle est comparable à celui de la vie naturelle. De la même manière que l'enfant est le fruit d'une semence où le père transmet quelque chose de lui-même à son enfant, ainsi le baptisé est le fruit d'une semence divine où Dieu a déposé dans l'âme quelque chose de lui. Alors ce quelque chose que le bon Dieu a déposé dans l'âme de l'enfant, cette semence que le bon Dieu a déposée dans l'âme de l'enfant, c'est ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. Donc quand on parle de la grâce sanctifiante, c'est cette semence divine que Dieu a déposée en notre âme par le baptême. Et cette semence divine est une participation à la vie même de Dieu. C'est ce que dit encore saint Pierre. Nous avons été rendus participants de la nature divine. Deuxième épître de saint Pierre, chapitre 1er, verset 4. Donc la semence qui est la grâce sanctifiante est une participation à la vie même de Dieu. Et c'est ce qui fait que nous sommes réellement enfants de Dieu. Nous sommes réellement enfants de Dieu. Donc vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ est fils par nature. Il est le fils de Dieu par nature. Ça veut dire que c'est depuis toujours. Et par nature, il est fils de Dieu. Donc ce que notre Seigneur Jésus-Christ est par nature, nous le sommes par adoption. Donc nous sommes fils adoptifs de Dieu. Nous sommes enfants adoptifs de Dieu. Mais ici, il faut faire très attention quand on utilise ce terme-là, qui est le terme juste, parce qu'on n'est pas enfant de Dieu par nature. Par nature, on est enfant de colère, enfin on est fils de colère, on pourrait dire ça comme ça. Mais on n'est pas enfant de Dieu par nature. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est grâce au baptême qu'on a reçu. Donc on est enfant par adoption. Mais l'adoption qui est divine, qui est présente donc par le baptême, est différente de l'adoption de parents ici-bas qui adoptent des enfants. Lorsque des parents ici sur terre adoptent des enfants, cette adoption est une adoption qui est juridique. Donc il n'y a rien au départ, il n'y a pas de lien entre l'enfant et les parents. Entre les parents adoptifs et le fils adoptif, au départ, il n'y a rien. Tandis qu'en nous, eh bien, il y a une semence de Dieu. Donc en nous, on parle d'adoption, mais en réalité, c'est plus qu'une adoption juridique. Parce que nous sommes réellement enfants de Dieu. Parce que Dieu a déposé en nous quelque chose de lui. Alors que dans le cas d'un enfant adoptif, ici-bas, eh bien, c'est simplement les parents qui ont décidé de choisir, enfin, on leur a donné en tout cas tel envie. Ils ont décidé d'avoir des enfants adoptifs, enfin, d'adopter des enfants, et suite à cela, un contrat est établi. Alors à partir de là, bien sûr, qu'ils vont essayer de donner tout leur amour, toute leur affection pour que cet enfant puisse ensuite s'épanouir. Mais au départ, il n'y a rien dans l'enfant qui ne vienne de ces parents-là. Tandis qu'en nous, eh bien, nous sommes réellement enfants de Dieu. Et c'est pour cela, vous voyez, que Dieu voit en nous un de ses enfants. Et Dieu voyant en nous un de ses enfants, il ne peut pas ne pas nous aimer. Vous voyez, la conséquence de cette nouvelle naissance, c'est qu'il y a un lien tout à fait particulier, très profond, qui existe entre nous et Dieu. Et notez, comme disait saint Pierre, que cette semence qui est présente en nous est incorruptible. Elle est incorruptible, ça veut dire que la grâce sanctifiante, par nature, elle est appelée à durer toujours. De la même manière que nos premiers parents ont été créés à l'état d'immortalité, s'ils n'avaient pas péché, eh bien ils n'auraient pas connu la mort. C'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Eh bien pour nous, il en est de même de la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, par nature, elle est incorruptible. Malheureusement, on peut détruire cette grâce par le péché mortel. Si on commet un péché mortel, on détruit cette vie de Dieu en nous. Mais par nature, cette vie, elle est incorruptible. Et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur dit, par exemple, dans un passage dans la Sainte Écriture, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Il ne dit pas « aura la vie éternelle », mais « a la vie éternelle ». La vie éternelle est commencée. Elle est commencée depuis le jour de notre baptême. C'est une conséquence de cette vérité, de cette semence incorruptible qui est présente en nous. Donc ce qui fera notre bonheur au ciel est présent en nous. Seulement on ne le voit pas. Alors c'est ça le problème pour nous. Nous on aimerait bien le voir. C'est sûr que si on le voyait, bon ça changerait beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. La vision, elle est faite pour dans l'au-delà. Tant qu'on est sur terre, il s'agit de croire. Saint Jean dit, nous sommes dès à présent enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'est pas encore apparu. N'est pas encore apparu, c'est-à-dire n'est pas encore visible. On ne le voit pas, mais le trésor, il est bien présent en nous. Première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. En mode de présence de Dieu. Donc tout d'abord, Dieu est présent en toute créature. Donc Dieu est présent partout. Ça, nous le savons. Ça fait penser d'ailleurs que quand je faisais du catéchisme, quand j'étais séminariste, je demandais aux enfants où est Dieu. Alors, un enfant m'avait répondu, Dieu, je faisais le catéchisme dans une chapelle. Où est Dieu? Alors un enfant m'avait dit, Dieu, il est au ciel. Très bien. Après, je continue, je pose encore aux enfants, où est-ce qu'il est encore Dieu? Alors une fille me dit, Dieu, il est dans mon cœur. Bon, j'espère, très bien, je ne développe pas davantage, très bien. Et puis après, je dis encore, où est-ce qu'il est Dieu encore? Alors moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent, bah, Dieu est partout, quoi. Alors, il y a une fille en ce moment-là qui se lève et puis qui montre vers le tabernacle. Alors, je me dis, bah, dire, Dieu est là, présent dans le sacrement, mais non, elle ne dit pas ça. Elle dit, où est Dieu? Dans la lampe. Alors, certainement que quand elle était plus petite, la maman avait dû dire, tu vois la lampe qui est là, ça veut dire que Dieu est là. Alors, elle avait compris, bah, Dieu est dans la lampe. C'est vrai que Dieu est partout, donc il était aussi dans la lampe. Mais... Donc Dieu est présent partout, au ciel, sur la terre et en tout lieu. Dans les actes des apôtres, il est dit, en lui nous vivons, en lui nous nous mouvons, en lui nous sommes. Actes des apôtres, chapitre 17, verset 28. En lui nous vivons, en lui nous nous mouvons, en lui nous sommes. C'est Dieu qui nous a créés et c'est Dieu qui nous maintient dans l'existence. Donc, et ça c'est vrai de toute créature. Donc Dieu est présent partout dans la mesure où Dieu donne l'existence à toute créature. Et dans la mesure où Dieu maintient les créatures dans l'existence. Puisque Dieu possède lui seul la plénitude de l'être, eh bien rien ne peut exister hors de lui. Rien ne peut plus exactement exister hors de lui, c'est-à-dire qu'il ne dérive de lui comme de sa source. Donc on n'existe pas par nous-mêmes. Notre existence est une existence qui est reçue. Quand on est en bonne santé, on a beaucoup de mal à s'en convaincre. On a l'impression qu'on existe par nous-mêmes. Mais quand on devient gravement malade, vous voyez, alors là on commence à réaliser qu'on est un être dépendant. Voilà. Dès lors qu'on est malade, on voit bien qu'on dépend de Dieu. Donc on demande au bon Dieu de venir nous aider. Mais à chaque instant, on dépend de Dieu. Donc déjà, au niveau naturel, Dieu est bien sûr présent en toute créature. Et maintenant, on peut ajouter ici qu'il y a différents degrés de présence de Dieu dans les créatures, à savoir que plus les êtres sont élevés dans l'échelle de la création, plus ils reçoivent de Dieu. Et donc, plus Dieu est présent en eux d'une certaine manière. Dit saint Thomas. Dieu est plus uni aux êtres auxquels il opère de plus grandes choses. Donc la présence de Dieu dans un grain de sable, si vous voulez, n'est pas identique à la présence de Dieu dans le plus grand des archanges, vous voyez. Donc il y a des degrés de présence de Dieu en fonction des êtres. Plus un être est élevé dans l'échelle de la création, plus Dieu est présent en lui d'une certaine manière. Mais Dieu est présent dans ses âmes comme auteur de leur nature et comme providence ensuite, parce que le bon Dieu donne à chaque créature ce qui lui convient. Maintenant, la présence de Dieu alors dans l'âme des justes présence de Dieu par le baptême, c'est un autre mode de présence de Dieu. Donc quand le bon Dieu vient dans l'âme du baptisé, il ne vient pas uniquement pour maintenir le baptisé dans l'être, ça il le fait par sa présence naturelle, mais il vient dans l'âme du juste comme ami. Il vient en nous comme protecteur et comme ami. On voit cela, vous voyez, dans Adam et Ève qui avaient été créés et élevés à l'ordre surnaturel. Eh bien, Dieu venait parler dans la brise du soir avec Adam. Cette discussion qu'il y avait entre Adam et Dieu, il ne voyait pas Dieu pour autant d'ailleurs, hein, ce n'était pas une vision, hein. Mais il y avait une communication, il rentrait en communication avec Dieu, comme un ami rentre en communication avec un ami, montrant par là qu'il était élevé à l'ordre surnaturel. Eh bien, par la grâce, Dieu vient en nous comme protecteur et comme ami. Alors maintenant, s'il fallait préciser, alors à partir de ces réflexions, la nature de la grâce, on dira que la grâce, le terme théologique, c'est un terme peut-être un peu savant pour vous, je ne sais pas, c'est un habitus. Alors un habitus, c'est une disposition stable permanente. Et c'est une qualité. La grâce est une qualité qui est reçue dans l'essence de notre âme. Donc notre âme reste une âme humaine, donc elle ne perd pas sa nature, mais Dieu vient dans l'essence de l'âme dans le but de l'ennoblir, de la rendre plus belle. Donc lorsque Dieu vient dans une âme, par sa grâce, il purifie cette âme, il la transforme, et même on peut dire d'une certaine manière qu'il la déifie, il la transforme en lui. Ça, c'est vrai de toute personne dès qu'elle reçoit le baptême. Dès lors que le prêtre fait couler l'eau en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », eh bien, le bon Dieu vient habiter ainsi l'âme de cet enfant. Donc, il y a la grâce sanctifiante qui va être le réceptacle à la présence trinitaire. Donc, la grâce est cette qualité qui ennoblit l'âme et qui permet à la Sainte Trinité de venir y habiter. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit bien dans l'Évangile, on parle de... Notre Seigneur dit que bientôt ils seront baptisés dans l'Esprit Saint. En recevant le baptême, on reçoit le Saint-Esprit lui-même. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est que... Donc on reçoit le Saint-Esprit, bien sûr, par le baptême. Et en recevant le Saint-Esprit, on va recevoir aussi en même temps le Père et le Fils. Pourquoi cela ? Bien, dans les œuvres qui sont extérieures à la Sainte Trinité, les trois personnes agissent toujours ensemble. Jamais une personne ne vient sans l'autre. Donc, le fait de venir dans l'âme des justes, c'est pas une œuvre qui est présente, c'est une œuvre qui est extérieure à Dieu, nous sommes extérieurs à Dieu. Et bien, dans toutes les œuvres qui sont extérieures à Dieu, les trois personnes agissent toujours de concert. Donc le Saint-Esprit venant dans l'âme, le Père vient aussi, et le Fils également. C'est pour ça qu'il y a des phrases d'ailleurs où notre Seigneur dit « Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. » Donc le Père dit qu'il va venir avec son Fils. Le Fils dit qu'il va venir avec son Père. Donc il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont présents dans l'âme des justes, après le baptême. Alors certaines âmes ont bien pénétré cette vérité, notamment la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, qui était carmélite à Dijon. Elle avait choisi d'ailleurs ce nom de la Trinité, parce qu'elle a eu une grâce spéciale, certainement, pour approfondir ce mystère. Eh bien, voici ce qu'elle disait. « Nous portons notre ciel en nous. » Puisque celui qui rassasie les glorifiés dans la lumière de la vision se donne à nous dans la foi et le mystère. C'est le même. Il me semble que j'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel c'est Dieu, et Dieu est en mon âme. Le jour où j'ai compris cela, tout s'est illuminé pour moi. et je voudrais dire ce secret tout bas à ceux que j'aime. Donc se dire qu'on porte le ciel, on le porte en nous. Alors on ne le voit pas, encore une fois, si on le voyait, ce serait trop simple, mais il est réellement en nous. Donc à nous, au cours de cette retraite, de porter ce regard de foi sur cette transformation qui s'est opérée au baptême, à notre baptême, le jour de notre baptême, et sur ce qui se produit aujourd'hui encore en nous, si nous sommes en état de grâce. Sainte Thérèse d'Avila avait aussi pénétré cette vérité. Elle disait, de son côté, « N'allons pas nous imaginer que tout notre intérieur est vide. Il y a au-dedans de nous un palais d'une richesse incomparable, digne en un mot du maître à qui il appartient. » Et elle ajoute, « Je comprenais fort bien que j'avais une âme, mais de quel prix elle était, quelle hôte l'habitait, voilà ce que je ne comprenais pas. » Parce que les vanités de la vie jetaient sur mon âme comme un bandeau qui l'empêchait de voir. Je ne comprenais pas, comme aujourd'hui, que dans ce minuscule palais de mon âme habite un roi d'une telle majesté. Sans cela, il me semble que je ne l'aurais pas laissé si souvent seul. » Donc Sainte Thérèse d'Avila elle-même, fondatrice du Carmel, remarquait qu'elle croyait bien qu'elle avait une âme. Mais elle ne réalisait pas, en fait, le trésor qui était présent dans cette âme. Et le motif qu'elle donne, parce que les vanités de la vie jetaient sur mon âme comme un bandeau qui l'empêchait de voir. C'est sûr que si nous voulons jouir de ce trésor sur la terre, il faut apprendre à nous détacher de toute attache déréglée aux créatures. Les attaches que nous pouvons avoir vis-à-vis soit des créatures, soit de nous-mêmes, sont un obstacle à la jouissance de cette présence trinitaire. Dieu, voyez, est un Dieu jaloux. Il veut avoir la première place dans notre cœur. Et quand on lui donne la première place, il y a toute la place qui lui est due, eh bien à ce moment-là, il se communique à nous. Mais dès lors que de notre côté, eh bien, on s'attache d'une façon déréglée aux créatures, eh bien à ce moment-là, il se cache. Et c'est normal. Donc une grâce à demander au cours de cette retraite, c'est d'abord de pénétrer cette vérité de foi catholique et de demander à notre Seigneur d'en vivre davantage. Et pour cela, de repérer ce qui, dans notre vie, aujourd'hui, peut être un obstacle à cette vie trinitaire. Alors, quelles sont les conséquences, et on terminera par là, les conséquences de cette grâce de Dieu en nous. Première conséquence, c'est l'appartenance à notre Seigneur. Vous voyez, le terme de chrétien veut dire du Christ, c'est-à-dire qui dépend du Christ. Le chrétien, c'est un homme qui est rattaché au Christ. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la liberté absolue est impossible ici-bas. Le démon, pour nous attirer à lui, il nous attire presque toujours par cet argument de liberté. Il sait très bien que la liberté, qu'on se laisse attirer par ce mot de liberté. C'est un mot fascinant, un mot qui nous attire. Donc il veut nous faire croire qu'en suivant ses inspirations, on sera plus libre. Mais c'est faux. On est nécessairement dépendant de quelqu'un. Soit on est dépendant du démon, soit on est dépendant de Dieu. On ne peut pas être indépendant. Et le démon donc veut nous faire croire que Dieu nous ferait, nous imposerait un joug qui serait intolérable. Et que par conséquent, il faut essayer de faire sauter ce joug pour pouvoir respirer davantage, pour pouvoir avoir une certaine liberté plus grande. Mais c'est faux. Dès lors qu'on s'écarte du droit chemin, eh bien, à ce moment-là, on devient tout de suite esclave de nos mauvais penchants. Et si on est esclave, on n'est plus libre. Donc, comprenons bien que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Nous appartenons à notre Seigneur. C'est une conséquence de notre baptême. Par le baptême, nous sommes enfants adoptifs de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous dépendons de Dieu. Déjà, on dépend de lui par nature, mais on dépend de lui encore davantage en tant que baptisé. C'est bien cette vérité que saint Paul voulait faire comprendre et transmettre à ses fidèles. Il disait à ses fidèles, « Vous ne vous appartenez plus, vous avez été achetés et payés. » 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Avant le baptême, nous étions sous le joug du démon. Le démon avait une influence sur nous. C'est la raison pour laquelle il y a des exorcismes au baptême. On commence par des exorcismes, donc on chasse l'influence du démon pour la remplacer par celle de Dieu. Et donc on dépendait du démon, et pour sortir de cet esclavage du démon, eh bien notre Seigneur a payé le prix. Et quel a été le prix? C'est son propre sang. Notre Seigneur nous a rachetés du joug du démon en payant le prix, en mourant pour nous sur la croix. Et donc la conséquence, c'est que puisqu'il a payé le prix pour nous racheter, eh bien maintenant, nous sommes dépendants de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la conséquence de cette grâce sanctifiante qui est présente en nous, c'est une appartenance à notre Seigneur. Et c'est ce que disait encore saint Paul à ses fidèles. Il ne parlait pas de religieux ou pas religieux, il parlait à l'ensemble de ses fidèles. Nul d'entre vous ne vit pour soi-même comme nul ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, que nous vivions ou que nous mourions, c'est donc au Seigneur que nous appartenons. Romains, chapitre 14, versets 7 et 8. Donc, appartenance à notre Seigneur, appartenance aussi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous, et bien c'est pour qu'on l'écoute, c'est pour qu'on soit fidèle à ses inspirations. Cette présence du Saint-Esprit en permanence, en nos âmes, Saint-Irénée en était convaincu. C'est pour cela qu'il arrivait à définir le catholique, le baptisé, comme celui qui possède un corps, une âme et l'Esprit-Saint. C'est comme ça que Saint-Irénée définissait le catholique au IIe siècle. Et puis ensuite, alors, les droits et privilèges du chrétien, conséquence de cette vie de Dieu en nos âmes. Dès lors qu'on est devenu enfant de Dieu, nous sommes l'objet privilégié de la charité et de la providence de Dieu. Vous voyez, il ne faut pas, dans notre vie spirituelle, ne voir en nous que l'aspect de pécheur. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. C'est vrai d'un certain côté. Quand je considère le vieil homme qui est en moi, je suis un pauvre pécheur. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est tout aussi vrai de dire que je suis réellement enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, le bon Dieu me regarde avec complaisance. Il voit en moi une image de son Fils. Alors à moi, après, d'essayer dans ma vie d'être toujours un enfant plus docile, un enfant plus aimable, un enfant plus attentif, un enfant plus charmant. Mais nous sommes réellement enfants de Dieu. Et c'est pourquoi saint Paul disait, « Je suis convaincu que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni futur, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni rien d'autre de créé, ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Donc Dieu voit en nous l'un de ses enfants. Et donc voyant en nous l'un de ses enfants, il ne peut pas ne pas nous aimer. Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Et donc la conséquence de cet amour que Dieu nous porte, ça doit établir nos âmes dans la confiance. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à Dieu de vous donner le royaume. Ne crains pas, c'est ce que notre Seigneur nous dit. Ne crains pas, petit troupeau. Il dit petit troupeau, vous voyez. Hein? Donc ce n'est pas la majorité qui fait la vérité. Malheureusement, beaucoup, la majorité se laisse souvent avoir par le courant de la facilité. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à Dieu de vous donner le royaume. Saint Luc, chapitre 12, verset 32. Et ce soin particulier de Dieu pour nous va se manifester notamment par le don de la Sainte Eucharistie. Dieu nous aimant d'un amour particulier veut se communiquer à nous dès ici-bas d'une façon particulière. Et le don de la Sainte Eucharistie est là, est le fruit de cet amour particulier, privilégié de Dieu pour nous. Et puis enfin, dernière conséquence, par le fait du baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes déjà héritiers en puissance du royaume du ciel. C'est pour ça que le jour du baptême, on met du Saint-Crème sur le front de l'enfant. Le Saint-Crème, on s'en servait autrefois pour l'onction des rois. Et le but, c'est de montrer comment par le baptême, on est déjà héritier en puissance du royaume du ciel. Notre Seigneur disait, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Saint Luc, chapitre 10, verset 20. Donc essayons, durant cette retraite aussi, ça peut être une grâce à demander, de développer un petit peu en nous cette dévotion pour la Sainte Trinité et réfléchir un petit peu à cette présence trinitaire. D'une façon générale, on dirait que les fidèles ont une grande dévotion pour la Sainte Eucharistie. Donc, venir prier dans une chapelle, c'est toujours très agréable, parce que notre Seigneur est là présent, dans le Saint-Sacrement. Mais peut-être que beaucoup de fidèles ont tendance à oublier cette présence trinitaire. Et plus nous arriverons à développer ce regard de foi sur cette présence trinitaire en nous, plus cela devrait nous apaiser, savoir qu'on n'est jamais seul. Une retraitante me disait au début de la retraite, qui est enceinte, qu'elle est contente parce qu'elle ne fait pas la retraite toute seule, ce qui est vrai. Mais chacune d'entre vous, j'espère, que vous ne faites pas la retraite toute seule. La Sainte Trinité est présente en vous, si vous êtes en état de grâce. Et par conséquent, eh bien, ça doit être notre consolation, toute notre vie, voyez, de penser que le bon Dieu est près de nous. On n'est jamais seul. Donc les conséquences pratiques, c'est d'essayer de vivre cette présence trinitaire. Sainte Thérèse d'Avila le disait, « Nous devons, même au cours de nos occupations, nous retirer en nous-mêmes, ne serait-ce qu'un moment. Il m'est très profitable de me rappeler que j'ai de la compagnie en mon fort intérieur. » Chemin de la perfection, chapitre 29. Donc même un moment. Il ne s'agit pas forcément de rester des heures à essayer de penser à ça. Mais un petit peu comme les séminaristes ou les enfants, c'est toujours pareil, ils aiment bien penser aux vacances de temps en temps. Bon, on fait penser aux vacances, ça leur donne le courage de continuer. Et bien là, c'est pareil. Penser que le bon Dieu est près de nous, ça devrait nous donner le courage pour continuer notre vie sur la route du ciel. La bienheureuse Élisabeth de la Trinité encore, je vous laisse ma foi en la présence de Dieu, du Dieu tout amour habitant en nos âmes. C'est cette intimité avec lui au-dedans de moi qui a été le beau soleil irradiant de ma vie. C'est ce qui me soutient aujourd'hui dans ma souffrance. Donc la bienheureuse Élisabeth de la Trinité disait que toute sa vie, c'est cette présence trinitaire qui a été le soleil de sa vie. Et que dans la souffrance spécialement, eh bien, cette présence trinitaire était son soutien. Un peu plus loin, elle disait également, « Ah, je voudrais pouvoir dire à toutes les âmes quelle source de force, de paix et aussi de bonheur elles trouveraient si elles consentaient de vivre dans cette intimité. Seulement, elles ne savent pas attendre. Si Dieu ne se donne pas de façon sensible, elles quittent sa sainte présence. Et quand il vient à elles armée de tous ses dons, il ne trouve personne, l'âme est au dehors, dans les choses extérieures, elle n'habite pas au fond d'elle-même. » Donc, vous voyez, notre difficulté, c'est que on voudrait obtenir tout de suite cette présence. On voudrait jouir tout de suite de cette présence. Mais comme je vous ai déjà dit, je pense, au début de la retraite, c'est qu'il y a des lois dans l'amour. Et l'attente fait partie des lois de l'amour. Donc, le bon Dieu ne se montrera pas forcément tout de suite, dès le premier instant. Il veut être désiré. Donc, de notre côté, c'est pas à nous de fixer l'heure de rendez-vous, si vous voulez. On doit toujours être prêt au rendez-vous, ça c'est notre disposition, la disposition du catholique, et ensuite c'est le bon Dieu qui nous parle quand il veut et comme il veut. Et nous, notre problème, c'est que de temps en temps, eh bien, on va voir s'il est là, et puis bon, s'il ne paraît pas là, on se dit, bon, maintenant, je vais faire autre chose. Et du coup, ensuite, quand il vient, paf, on n'est pas là, dommage. Donc, essayons d'être un peu plus attentifs à cette présence trinitaire, et certainement que si nous le faisons, eh bien, nous goûterons davantage cette présence de Dieu. Voilà. Donc nous allons nous rendre à la chapelle en demandant au Saint-Esprit de nous éclairer sur ce trésor qui est présent en nous depuis notre baptême.